dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
11h04, Marinaro, le forum BPM Sport avec Alex Langteau à la mise en onde. Denis Gauthier tous les mardis et tous les jeudis. Denis, comment vas-tu?
Ça va très bien, Tony, et toi-même?
Ça va très, très bien, merci, Denis. Yeah. Écoute, on a eu un bon débat, je pense, que à un moment donné était enflammé, mais un bon débat. Alex, qui a bien fait, il a gardé son calme face à deux gars. Moi, je pense que j'étais le gars dans le milieu. Eric était plus vocal.
Ah, hein? Eric, ouais.
S'est venu le chercher. Tu ouais. vois que il est venu le chercher, comme tu dis. Moi, je pense un peu entre mes deux. Mais
ça a fait de la bonne radio.
Mais écoute, moi, à la fin, puis toi, tu as droit à ton opinion. Eric a droit au sien. Lui, évidemment, il pense que lui a raison. Toi, tu penses que toi, tu as raison. Mais à la fin, quand quelqu'un donne son opinion, il n'y a pas vraiment personne qui a raison. C'est alors, qu'est-ce que toi, tu penses, OK? Et moi, je pense que dépenser des fonds publics, du temps et du fonds public pour ça, c'était pas nécessaire. Donc, en ça, je suis d'accord avec Eric, mais Denis, je suis intéressé à entendre ton point de vue là-dessus.
Ouais.
D'officialiser le hockey comme le sport national du Québec, t'en penses quoi?
Ben, écoute, en surface, ça semble intéressant, puis ça va venir soutirer beaucoup les émotions, les passions des Québécois, des Québécoises, parce que ça fait longtemps que le hockey, on le pratique, on le voit, on le vit avec le Canadien de Montréal, puis on voit aussi le déclin des performances des Québécois au niveau de la Ligue nationale, au niveau du nombre de joueurs de la Ligue nationale. Puis c'est pas la seule chose qui l'explique, mais il reste qu'il y a beaucoup de facteurs qui viennent là-dedans. Cela dit, je comprends très bien le fait que, bon, il y a d'autres sports qui ont pris beaucoup d'ampleur au cours des dernières années, dernières décennies au Québec, qui prennent l'importance, que les jeunes et les adultes aiment pratiquer, aiment jouer. Donc, tu sais, de sacrifier de l'argent public pour dire qu'on s'occupe seulement du hockey ou à peu près, je pense que ce serait injuste. Tu sais, j'essaie d'être très, puis je suis pas parce que je veux pas prêcher pour ma paroisse, parce que moi, ça me fait de la peine de voir le hockey se diriger dans la direction qu'il va présentement, de ouais. voir comment il y a un manque d'encadrement, il y a un manque de fonds, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre de jouer au hockey à cause qu'on sait c'est très dispendieux. J'aimerais avoir de l'aide gouvernementale, j'aimerais avoir des programmes pour qu'on puisse aider les familles et les jeunes pour ceux qui veulent pratiquer le sport, mais de moi à l'obliger, tout ça. Je pense que c'est un peu trop frais comme débat ou comme pensée pour moi. Il faudrait que je l'analyse un peu plus profondément, mais en surface, ça serait peut-être injuste peut-être de l'obliger.
Denis, c'était pas mon intention, mais maintenant qu'on est là, est-ce que tu trouves que le hockey est devenu trop cher?
Ah oui, certainement. Puis tu sais, je regarde, là, je vais dans les magasins, je regarde les prix des patins, des bâtons. Tu sais, les bâtons à 300, 400, 500 les patins à 1000, à 1200, tu sais, il reste qu'à un certain moment donné, c'est des enfants, puis ça, c'est juste l'équipement, là. Quand ça coûte, tu sais, on va parler peut-être juste un 3, un 4000 juste d'équipement par année pour du hockey mineur à tombe, puis oui, bantam, en plus des inscriptions, des hôtels, tout ça, tu sais, c'est triste, mais c'est pas pour tout le monde. Tu sais, c'est un sport qui est devenu, c'est pas un sport de riches, là, mais c'est un sport de gens qui sont un peu plus à l'aise, plus fortunés, ou sinon, ça a des gens qui sont prêts à sacrifier leur propre bonheur en frais de temps en famille, de vacances, peu importe, pour pouvoir se sacrifier, pour donner ça à nous, de permettre aux enfants de jouer puis de s'équiper. Fait que, tu sais, il reste toujours, il y a des façons de faire, je pense qu'il y a des programmes de faire, puis tu sais, les parents aussi, on doit être un peu plus raisonnables. Dans le fond, tu sais, il y a plein de business qui sont là pour amener du équipement à seconde main, puis tout ça, mais tu sais, comme parents, il y en a beaucoup qui veulent donner le meilleur à leurs enfants, et puis ils pensent qu'en achetant les meilleurs patins, les meilleurs bâtons, ça donne les meilleures opportunités de se rendre loin, ce qui est loin d'être le cas. Mais tu sais, oui, je trouve que c'est rendu très, très dispendieux, puis faut trouver des façons pour que ça devienne un peu plus abordable pour plus de familles, puis tu sais, il faut y aller avec la masse. Là. Plus il y a de jeunes joueurs de hockey qui peuvent jouer, qui peuvent s'épanouir là-dedans et pour avoir le temps de développer, plus on aura des opportunités d'avoir quelques bijoux à un certain moment donné qui vont sortir du dos puis devenir des futurs joueurs de la Ligue nationale.
En parlant d'enfants, bravo aux Canadiens encore une fois qui sont allés visiter les enfants malades aux hôpitaux hier. Là, c'est quelque chose. On a vu les photos, les images. Là.
Ouais.
Wow.
Moi, j'ai adoré quand. Tu sais, j'adore ce que le Canadien fait. Moi, j'ai adoré faire ça comme joueur de hockey. Puis pour vrai, ça amène tellement de perspective. Puis de remettre les pendules à l'heure des fois quand tu te retrouves dans une situation où t'es chanceux, t'es fortuné, tu vis une vie de rêve, mais de te ramener les deux pieds sur terre, puis de voir ce que d'autres vivent, les embûches que d'autres personnes vivent, puis que moi, mon petit train quotidien, le fait que j'ai pas joué peut-être les minutes que je voulais jouer ou que j'ai pas été habillé un soir, puis de ramener qu'il y a d'autres qui ont des vrais problèmes dans la vie, puis ça amène une perspective qui est très différente. Puis pour vrai, là, moi, je me souviens, l'une des premières années que j'ai faites, j'étais à Calgary, on a joué dans un match de hockey Cosum en chaise roulante contre des enfants qui étaient évidemment malades et en chaise roulante, mais quel plaisir on était. Tu sais, c'était juste le fun de jouer, mais tu sais, de voir le plaisir, le sourire que ces enfants-là avaient, puis que pour eux, on est des. Tu sais, pour plusieurs, on est des idoles. Tu sais, je me souviens d'un jeune Jerome McGinley à Calgary qui était là, que tout le monde avait des yeux que pour lui, mais. Tu sais, c'est des moments qui sont précieux pour eux, pour les familles, puis surtout les parents et les mamans aussi qui voient leurs enfants qui, tu sais, sont souvent alités dans le jour, intubés ou peu importe, puis tu sais, d'essayer de retrouver le bonheur, c'est difficile, mais d'avoir, tu sais, côtoyer des gars de Ligue nationale ou des entraîneurs ou des gens connus qui viennent, puis pour une heure, il y a rien de ça, ça fait pas mal, on pense pas à notre maladie, à notre malaise, ou peu importe, puis comme nous, comme joueurs, d'être capable de vraiment faire profiter de ce que nous, on vit à ces jeunes-là, c'est vraiment sensationnel. Donc, bravo aux Canadiens, puis bravo à toutes les équipes de la Nationale, que je sais aussi qu'ils le font également.
Puis félicitations à Brendan Gallagher et à sa douce moitié qui attend l'arrivée de leur premier enfant, dont on leur souhaite le mieux. Ce matin, au fameux Morning Skate, là, c'est déjà fini, ça a commencé à 10h30. On a vu des images de Martin Saint-Louis en longue conversation avec son capitaine Nick Suzuki, évidemment. Juste Suzuki puis Martin Saint-Louis savent de quoi ils ont discuté, là.
Ouais.
Mais si toi, tu serais Martin Saint-Louis, c'est quoi le genre de questions que tu poserais à ton capitaine en ce moment-là? Puis si toi, t'es le capitaine, c'est quoi le genre de discussion que t'as avec ton entraîneur au moment qu'on se parle?
Ben, écoute, si je suis l'entraîneur, des fois, des conversations comme ça, c'est juste pour avoir le pouls de son équipe. Tu sais, Martin, il traîne pas dans le vestiaire, il traîne pas en arrière dans l'autobus où il y a les conversations des joueurs, où il est pas au resto, dans la chambre, après pratique. Fait que, tu sais, des fois, d'avoir le lien avec ton leader, ton équipe, puis de savoir, là, tu sais, un tel, comment il se sent, comment tu vois les choses, puis c'est quoi l'ambiance dans la chambre, est-ce que les gars sont encouragés, est-ce qu'ils sont encore découragés, est-ce qu'ils croient que, tu sais, qu'on est en train de faire de quoi de positif, puis de revenir. Fait que, tu sais, ça donne une chance à l'entraîneur un peu d'avoir un gauge sur où son équipe se situe, autant physiquement qu'émotionnellement, dans un long parcours de qui est une saison. Fait que, ça, c'est probablement une des choses, mais c'est. Ça peut être aussi juste individuellement sur Suzuki, sur sa façon de jouer, comment les choses vont. Et à l'inverse, le joueur a peut-être des choses aussi à dire. T'sais, sans dire que c'est le tuyau entre les joueurs et l'entraîneur, mais peut-être de dire, j'ai déjà eu des situations où tu vas voir un entraîneur et dire, hey, t'sais, lui, là, t'sais, je fais attention, il ne file pas bien aujourd'hui, ou c'est ces temps-ci, les choses vont moins bien. Pis, il pense que peut-être il est traité injustement ou peut-être qu'il y a de quoi qui dérange dans son coéquipier pis tout ça. Fait que, tu sais, des fois, ça donne un petit ton d'alarme à l'entraîneur de changer un peu son optique. Il avait une idée préconçue de pourquoi les choses allaient pas bien d'avoir un nouvel œil attentif à voir comment je peux aider certains joueurs sur la patinoire. Puis des fois, c'est juste une question de système. Ça peut être juste, est-ce que c'est bien compris? Est-ce que tout le monde est à l'aise avec où on est dans notre enseignement de système de jeu, que ce soit le jeu défensif, que ce soit le jeu de puissance, ou est-ce que toi, tu as des visions différentes? Parce que ce qui est important aussi, là, c'est que les joueurs soient on board. Les joueurs soient vraiment en accord, puis qu'ils croient au système de l'entraîneur. Fait que, des fois, c'est une communication. Moi, ce que j'ai proposé, ce que j'ai imposé, c'est ça. Est-ce que vous êtes bien ou est-ce que tu as une vision différente? Puis challenge-moi en retour. T'sais, si tu penses que moi, ce que je te dis, c'est pas bon pour vous autres, donne-moi ta vision et ton opinion sur qu'est-ce que tu penses qui est meilleur, puis moi, je vais essayer d'être un peu, d'être assez humble pour avoir l'ouverture de considérer ce que tu dis. Peut-être qu'en bout de ligne, mon idée est meilleure, mais au moins, tu m'as challengé à savoir peut-être qu'il y a d'autres options-là qui sont bonnes pour l'équipe aussi. Fait que ça peut être une multitude de choses qui se discutent sur une patinoire.
Pour ceux qui se demandent, Patrick Liney et Mike Matheson, qui ont eu des traitements hier, des journées de thérapie hier, ouais, étaient de retour sur la glace ce matin. Puis, écoute, pas de surprise, c'est Samuel Montembeault qui aura le départ encore une fois ce soir pour le Canadien contre les Penguins de Pittsburgh. Avec Denis Gauthier d'RDS. Denis, il me semble que c'était l'an passé, si c'était pas l'an passé, c'était l'année avant, là. Mais à un moment donné, t'en souviens-tu, Martin Saint-Louis avait dit que ils avaient même pas de classement dans le vestiaire. Mm-hmm. Ils regardaient pas le classement parce que l'équipe était en reconstruction, puis pour lui, c'était établir certains concepts, puis l'emphase était sur le développement, puis le développement des joueurs, puis ces choses-là. Mais là, j'imagine qu'aujourd'hui, là, le classement, il est là, parce qu'il parle d'être dans le mix, d'être dans le mix, d'être dans le mix. Quand t'es un joueur, t'es dans cette vestiaire-là, tu vois le classement, et tu te vois que t'es en bas de classement, par contre, t'sais, à 7 ou 8 points, boum, tu pourrais être dans une place dans les séries, là. Ouais. Tu penses quoi? Est-ce que les athlètes, ils pensent quoi quand ils voient le classement? J'imagine que ça dépend du joueur, là, parce qu'il y en a qui sont peut-être moitié vides, vers moitié vides. Il y en a d'autres qui sont peut-être vers moitié plein. Mais comment tu vois ça?
Ben, c'est comme tu dis, c'est deux tranchants. Il y en a qui le voient différemment. Moi, tu sais, c'est difficile de quantifier ton développement, de quel dentier t'es rendu où dans l'apprentissage, puis dans ta transition, dans ta reconstruction. À part avoir un classement, c'est où tu te situes par rapport aux autres équipes. Donc, t'es rendu où on est là, je pense que c'est important d'avoir un classement puis de savoir où on est. Si tu veux pas le mettre dans le vestiaire puis l'afficher au grand public, c'est une chose, mais les joueurs doivent être conscients, sont où. C'est pas juste de jouer pour jouer puis se concentrer sur nous seulement. C'est vrai que l'important, c'est se concentrer sur notre façon de faire, puis qu'est-ce qu'on doit faire sur la patinoire, mais tu veux avoir des objectifs. Ton objectif, c'est de rentrer dans le mix. C'est pas tant de rentrer en série, c'est même si comme joueur, c'est ce que tu veux, mais tu veux te remettre dans le mix. Donc, si t'as pas l'objectif devant toi, puis tu sais pas pourquoi tu fais le processus, ça peut être un peu difficile de te motiver et d'avoir trouvé une certaine constance dans ton quotidien. T'sais, moi, je me souviens quand je suis arrivé à Philadelphie, je suis arrivé à la date limite des transactions au mois de mars. Cette équipe-là a eu, je pense, 106 points cette saison-là. On a perdu en première ronde contre les Sabres de Buffalo. La saison suivante, on a fini bon dernier dans la Ligue nationale. T'sais, 30e sur 30, il y avait seulement 30 équipes à ce moment-là. Puis, tu es rendu au mois de novembre. Il y en a une en rentrant, à l'aréna de pratique, en rentrant, là, proche du vestiaire, il y avait un tableau. Puis, rendu au mois de novembre, là, puis personne n'écrivait dessus. Il y avait plus de mise à jour parce qu'on était rendu tellement loin, on perdait tellement que c'était pratiquement décourageant. Mais là, la position que les Canadiens aient, à cause qu'ils ont eu comme une belle séquence au cours des deux dernières semaines, ça devient un peu plus encourageant. Tu dis, ben, en crime, on est loin, mais on n'est pas si loin que ça. Tu regardes dans les sept clubs, qui sont les 7 ou 8 équipes qui sont devant eux au classement avant de te rendre à Tampa 8e rang, tu as au moins un ou deux matchs en main sur la moitié de ces équipes-là. Fait que tu es en position que si tu gagnes ces matchs-là, mais au lieu d'être 16e dans ta conférence, tu te retrouves peut-être 12e. Puis hop, tout à coup, tu te mets dans l'eau, puis les matchs qui s'en viennent présentement au cours jusqu'à Noël te permettent de croire que tu as une chance d'avoir une autre belle poussée puis de te remettre dans une course intéressante. Parce que tu joues Pittsburgh aujourd'hui, évidemment, Winnipeg, ça risque d'être difficile, mais Buffalo, Détroit, Columbus, c'est pas des premiers de classe, là. Fait que tu gagnes 70% de ces matchs-là, puis tout à coup, tu es bien plus proche que tu réalises avant le congé de Noël. Fait que je pense que c'est important encore d'être conscient de où on se situe au classement puis de l'afficher dans le vestiaire.
OK. Martin Saint-Louis reste toujours avec les mêmes trios.
Ouais.
Toi, ce serait quoi ton niveau de patience envers tout ça?
La vérité, c'est qu'il faut y aller, faut gauger ça un peu aussi au niveau du succès de l'équipe. Le Canadien connaît un peu plus de succès dernièrement, on en convient. C'est 3 victoires au cours des 4 derniers, puis tu sais, on gagne de façon plus régulière. Fait que tu on veut tout débalancer, puis risquer de perdre un certain momentum qu'on s'est remis dans cette position-là, il faut toujours être un peu prudent. Moi, la façon que je vois les choses présentement, c'est nonobstant des débuts que Newhook a marqué au cours du dernier match, je pense pas que c'est un gars de premier trio. Comme la plupart des observateurs au Québec qui regardent les Canadiens, ils pensent pas que Newhook c'est un gars de premier trio. On a tout fait en sorte de relancer Doc. On l'a mis à l'aile, le premier trio. On l'a remis au centre avec l'aîné. Ça revient plutôt lentement. Mais moi, je reviendrai à la formule. Parce que là, le gars qui est important pour moi de relancer, c'est Slafkovski. T'sais, cette saison, c'est une saison difficile pour lui au niveau de la production offensive. Perdu son identité. Longue conversation avec Martin Saint-Louis à pratique hier, je ne me trompe pas. Il y a eu une remise à l'ordre avec Kent Hughes la semaine passée. T'sais, à un moment donné, ça prend des résultats, ça prend une réponse dans son cas. Le succès a déjà été là avec Suzuki et Caulfield. Il amène un élément important, ce trio-là, au niveau de la robustesse, au niveau de l'échec avant, au niveau de la protection de rondelles puis de la grosseur. Donc, c'est un complément parfait, peut-être le temps parfait de le réessayer bientôt. Et à l'inverse, je trouve que le deuxième trio montre des quelques beaux flashs, mais dans le cas de l'aîné et Dak, pour moi, c'est deux joueurs que si tu veux juste les regarder, tu les connais pas, tu peux peut-être penser que c'est des joueurs qui sont un peu nonchalants, parce qu'ils sont grands, ils sont gros, c'est pas les plus vigoureux sur une patinoire. Plein de talent, mais tu sais, l'aîné, j'aime bien ce qu'il apporte sur l'avantage numérique, quelques belles choses, quelques beaux flashs à 5 contre 5, mais c'est goal pas le plus intense sur l'échec avant et Dak non plus. Et Nourk pourrait aider ces deux-là, avec sa vitesse, pourrait créer un peu de chaos dans le fond de territoire, puis des revirements, puis permettre à ces deux gars-là d'avoir un peu plus de rondelles en zone avancée, puis accélérer les transitions. Fait que, t'sais, si jamais je vois que ça marche pas rapidement, pour moi, la solution évidente, c'est de changer Nourk et Slafkovski pour essayer d'aider. Chacun des trios ont des compléments. Je trouve qu'ils seraient mieux situés pour complémenter l'autre duo qui est sur lequel ils ne sont pas présents.
OK. Le Canadien met vraiment l'emphase sur le système défensif. Puis, me semble de tout a commencé le 2 novembre à Pittsburgh. Un match que les Canadiens ont perdu par la marque de 3-1, un but dans un filet désert. Et par contre, ils avaient perdu beaucoup de ces matchs-là quand ils essayaient de resserrer la défensive. Puis là, c'est drôle parce que le 11 novembre, ils ont joué un match d'attaque, un match ouvert face au Sabres de Buffalo, puis ils l'ont gagné 7-5. Mais là, dernièrement, dans la dernière semaine et demie, là, ils commencent de nouveau de jouer des matchs plus défensifs et ils sont en train de gagner la plupart de ces matchs-là. Denis, qu'est-ce qui a changé? Parce que il y a environ un mois, on disait le man-to-man hybride, ça fonctionne pas, il faut jouer zone, ça fonctionne pas, les joueurs ne le comprennent pas, soit c'est pas bien enseigné, soit ils l'ont pas compris, ils ont l'air tout mêlés, ils ont l'air des poules sans tête. Là, aujourd'hui, on dirait que tout le monde fait les bonnes lectures de jeu. Il dit que tout le monde revient dans la zone défensif. Tu sais, il n'y a personne qui triche avant que la rondelle est sortie de la zone, mais c'est venu comment ça? C'est-tu venu avec le temps? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Ben, le système n'a pas changé. T'sais, on dit que le système n'était pas bon, puis c'était pas compréhensible. Puis t'sais, on a discuté souvent ensemble, puis t'sais, je t'ai souvent dit que c'est avant de regarder collectivement qu'est-ce qui marche pas, individuellement, qu'est-ce que tout le monde fait bien et mal pour aider le collectif. T'sais, à la fin de saison l'année passée, deuxième moitié de saison, ça fonctionnait. Début de saison cette année, excuse-moi, ça fonctionnait pas. Mais individuellement, beaucoup de joueurs avaient des saisons difficiles, avaient des hauts et des bas au niveau du niveau de performance à tous les jours, à tous les matchs. T'sais, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui a changé, mais à un moment donné, c'est que ça a pris une réalisation de dire ce qu'on fait là, puis de la façon qu'on exécute ce qui est demandé, ça ne fonctionne pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais que Martin s'est choqué une couple de fois. Je sais que Martin en a parlé dans les médias. Il en a parlé à son vestiaire. Il y a un entraînement punitif, on s'en souviendra, pour passer son message, pour dire là, ça va faire. Fait que l'attention aux détails, mais tout était dans l'approche de gagner des bagarres un contre un, de gagner des courses aux rondelles libres. Tout ça, tu sais, c'est pas du talent, c'est un mindset. C'est une façon de penser, une façon d'être, une façon d'agir sur la patinoire qui va te permettre et non d'arriver deuxième sur une rondelle ou de donner des rondelles libres à tout le monde. C'est va te permettre de gagner ces courses-là et ces bagarres, puis de protéger ton filet, puis d'aller avec une intensité, avec une intention bien plus que juste être en réaction puis de subir ce que l'adversaire va s'imposer sur toi. Fait que, je pense pas qu'il y a une tonne qui a changé au niveau du système. C'est beaucoup plus dans l'approche des joueurs et l'intention des joueurs de vouloir faire une différence et de gagner des bagarres. Puis, à un moment donné, quand tu es tanné là, de te faire humilier, ça peut t'amener à faire des grandes choses. Je pense qu'on était rendu à ce point-là.
Et Denis, as-tu vu les vidéos de la bagarre de Paul Bissonnette?
Ouais. Ouais. Hey, toute une histoire, ça. Mais que, en tout cas, je suis content que ça soit lui puis pas moi. Tu sais, je me considère comme un gros bonhomme, là, mais on va dire, il est chanceux d'avoir survécu à ça de la façon dont il l'a fait. Puis j'ai écouté l'appel 911 puis tout ça. Puis, tu sais, des bombes tournées, il y en a partout. Puis des gars fringants, des gars qui se pensent un peu plus haut, puis quand ils sont en gang, devient bien sûr. Mais bravo à Paul Bissonnette d'avoir protégé les gens qui étaient un peu plus vulnérables au restaurant. Puis je suis content que ça en soit sorti de cette façon-là.
C'est quelque chose, hein? 1-6. Hey, Denis, avant que tu quittes, quelque chose pour toi.
Vas-y. C'est sûr, ça serait spécial. Je veux dire, tu sais, je me rappelle d'avoir regardé des clips de mon père qui gagnait ce tournoi avec Jerome McGinn là. Puis, tu sais, ça serait spécial, c'est certain. Je pense que c'est un rêve de jeunesse pour moi aussi de représenter mon pays au championnat du monde moins de 20 ans. C'est sûr que je vais tout faire pour y arriver, mais ça serait, je pense, une belle histoire de famille aussi, encore une fois, que les deux, on peut se remporter une médaille d'or.
C'est là que ton fils a passé la journée de mardi à l'aéroport, là, mais hier, là, il était là pour la camp de sélection d'équipe Canada.
Ouais, il s'est rendu finalement plus tard en soirée. Il a pris le vol, il est arrivé à Ottawa, il a fait 3 tentatives d'atterrissage, il n'a pas été capable. Il a été obligé de refaire demi-tour, venir à Montréal. Puis finalement, pratiqué hier matin, ils ont joué un match intra-équipe hier soir. Puis là, il joue à 3h aujourd'hui et midi demain contre l'équipe U-Sport, l'équipe de hockey universitaire.
Ouais.
Puis demain soir, l'équipe va être faite. Mais tu sais, d'entendre ces clips-là, tu m'en donnes des frissons, mais tu sais, tellement fier du parcours, puis je sais qu'il y a tout le monde qui parle, mais je sais qu'il veut, puis qu'il est prêt à accepter n'importe quoi, puis je serais tellement fier qu'il porte le chandail du Canada, un peu comme je l'ai fait, comme mon neveu Julien l'a fait aussi, mais on se croise les doigts, puis notre temps des fêtes en dépend, on attend de faire l'horaire pour savoir demain ce qui va se passer.
Mais évidemment, t'as le droit d'être fier, mais incroyable. Écoute, tu trouves-tu que tu lui donnes beaucoup de conseils? C'est quoi ta relation avec lui ou tu lui donnes si juste il t'appelle? Comment tu trouves? Toi, tu vois quelque chose dans son jeu. Est-ce que ça tente de prendre le téléphone pour dire « Écoute, Ethan » ou tu le laisses tranquille?
Ben, je le laisse tranquille le plus possible. Je peux le guider. Il y a des choses qui, pour moi, sont jamais négociables. C'est l'éthique de travail. Mais tu sais, à part ça, les discussions qu'on a, on les a à l'aréna. On les a pas à la maison. Puis souvent je fais passer le message par l'entraîneur-chef ici parce que tu sais moi je veux rester le père mais tu sais c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent au quotidien je peux l'aider mais tout ce qui est sur la partie noire, moi je suis plus un expert des défenseurs je suis plus un gars qui a mes yeux axés là-dessus fait j'ai beaucoup d'aide j'ai beaucoup d'acolytes à l'aréna présentement les entraîneurs adjoints qui sont là pour m'aider mais quand je regarde à distance je suis plus là pour l'encourager puis toujours lui suggérer de revenir à la base puis de jouer selon son identité. Il connaît son identité, il connaît son rôle, il connaît l'éventail de choses qu'il peut faire sur la patinoire. T'as 2 jours pour montrer ce que t'as à faire, manque pas ton coup. Donne ce que t'as à donner, puis le résultat viendra par la suite.
Et Denis, ça, c'est un message. Là. Si je dois lui parler de hockey ou lui donner des conseils ou passer des messages, tout ce que je fais, je le fais à l'aréna, pas à la maison. Ça, c'est pour les gens qui nous écoutent ou nous regardent actuellement sur YouTube, là. Ça, c'est quelque chose. Parce que dans le hockey, il y a qu'est-ce qu'on appelle le fameux fourth period dans l'auto. Ouais. On a déjà vu des vidéos des parents avec des enfants.
Les enfants ont le droit d'être des enfants à la maison. T'sais, des fois, s'ils subissent encore la pression de ce qu'ils vivent à l'aréna, ce qui est souvent des fois exponentiel, exagéré, puis qui n'est pas rationnel, s'ils sont obligés d'avoir peur de parler à leurs parents ou leurs proches à la maison parce qu'ils doivent subir encore leur performance, ça marche pas. Fait que moi, j'ai toujours eu pour but de laisser mes enfants être les enfants à la maison. Puis à la maison, je suis papa, je ne suis pas l'entraîneur.
Merci beaucoup, Denis Gauthier. Bonne chance à ton fils.
Merci, bonne journée.
On lui souhaite de tout cœur. Merci beaucoup.